Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Bonjour, chers auditeurs. Chères auditrices, chers auditeurs, en face de moi, une habituée, mais que nous avions un petit peu perdu de vue, mais je vous rassure, elle n'a absolument pas changé, c'est Cécile Carrier. Bonjour Cécile.
Bonjour Martine, bonjour à toutes et à tous.
Alors les auditeurs la connaissent, ils savent que c'est dans le musée de la Romanité, la spécialiste de la sculpture et de l'iconographie, dans le musée et ailleurs, mais c'est au musée qu'elle travaille. Elle a beaucoup travaillé justement, beaucoup produit, et notamment, elle est un maillon de cette chaîne qui a contribué à faire le succès de l'exposition en cours Gaulois mais Romains. Et c'est à ce titre aujourd'hui que je l'ai invitée. Donc, docteur en histoire de l'art et en archéologie, ça n'a pas changé. Et ici, s'intéressant particulièrement au code vestimentaire, au mode de cette Gaule romaine dont on a peu de renseignements en fait.
Très peu, voilà.
Donc, on lui a demandé avec Antiquissimo de nous éclairer effectivement sur certains objets qu'elle va mettre en lumière dans cette exposition parce qu'elle a été chargée de réaliser un parcours.
Un parcours alors, textile, mais qui est plus un parcours vêtements, on dirait. En fait, la genèse, ce sont les événements que la ville de Nîmes organise autour du textile et de la toile de Nîmes en 2025. Donc, mon chef de service, Nicolas Delarquier, qui, je crois, est venu déjà présenter l'exposition, est venu me voir parce qu'il fallait qu'au Musée de la Romanité, évidemment, on participe évidemment à ces événements. Et il m'a proposé de faire quelque chose au sein de l'expo qui était en cours.
En préparation à ce moment-là.
Exactement. Il m'a dit, est-ce que tu peux faire quelque chose en lien avec le tissu, le vêtement? Et donc, il m'a laissé très gentiment le libre cours à mon imagination. Et en fait, d'un point de vue pratico-pratique, le plus simple, c'était de faire un parcours un petit peu parallèle au parcours muséographique de cette exposition, mais axé sur le vêtement dans l'Antiquité.
Alors, dans l'exposition, ce parcours est fléché.
Alors, ce parcours, en fait, est indiqué par une petite étiquette marron qui représente un détail de tissu et qui s'appelle parcours textile. Donc, vous avez un panneau d'introduction qui est à côté du panneau d'introduction de l'exposition et qui est spécifique au parcours textile. Et ensuite, vous avez en dessous des cartels de certaines œuvres, alors c'est une 20 œuvres en fait, vous avez cette petite étiquette qui est accolée et les textes sont dans des fiches de salle qui sont dans les bacs, dans le bac de la deuxième salle et de la troisième salle, si je me souviens bien, qui correspond aux endroits où il y a effectivement des œuvres étiquetées parcours textile.
Alors, quand je disais aux auditeurs, en recevant Nicolas Delarquier effectivement précédemment, qu'il fallait prévoir plusieurs visites de l'exposition,
un petit peu, oui.
Ça paraît évident.
Absolument. C'est vrai que, parce que mon parcours ne dit rien de l'exposition Gaulois mais Romains. C'est vraiment un parcours qui est parallèle et qui se sert des œuvres de l'exposition pour parler du vêtement dans l'Antiquité et accessoirement de la nudité, puisque la nudité, c'est une tenue.
Oui, exactement.
Voilà.
Avec quelques peintures parfois sur soi.
Oui, voilà.
Alors, avant de rentrer dans le détail que va nous donner Cécile, il faut dire donc autour de cette exposition, il y a beaucoup de conférences, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais beaucoup d'ateliers. Je signale aussi pour les enfants des choses assez passionnantes. Vous vous renseignerez sur le site du musée. Paupiette et les Gallo-Romains,
oui.
C'est l'histoire d'une petite lait. On a parlé du sanglier. Il faut penser au lait aussi, attention aux féministes. Et puis, une visite atelier sur l'archéologie et le pillage de cette archéologie. Ça s'appelle « Qu'est-ce que tu trafic. Donc, je vous laisse regarder quand se déroulent ces ateliers pour les enfants. Mais là, ici, il y a des visites ateliers spécifiques pour le travail que vous avez conçu.
Oui.
Et je recommande, puisqu'on arrive aux vacances d'été, il y en a déjà eu une le dimanche 22 juin,
oui,
à 11h, mais celle-là, c'est du passé, on n'en parle plus. Il y aura le vendredi 18 juillet et 22 août à 10h30.
Oui, c'est en fin de matinée en fait.
Donc
oui.
Il faut s'inscrire. Hein.
Alors oui, il vaut mieux s'inscrire en appelant le musée tout simplement, ou si les gens veulent passer et s'inscrire au niveau de l'accueil du musée. Oui, parce que pour ces visites, il n'y a que 15 places, notamment en raison du fait que l'atelier propose de regarder des vêtements d'archéostylisme, c'est-à-dire des vêtements reconstitués à la manière de l'Antiquité.
Ah oui, c'est formidable ça, oui.
Et donc, il n'y a pas beaucoup de vêtements déjà.
Mais c'est à quel endroit alors que se situe l'atelier ?
Alors, l'atelier se fait dans un des ateliers pour les enfants de médiation, en fait.
D'accord, oui, oui.
Voilà, donc en plus, voilà, il a fallu que j'arrive à intégrer la lourde charge de ces salles. Et puis, il me fallait une salle climatisée. Parce
oui,
que,
c'est ce que j'allais dire.
Oui, parce que les gens vont garder,
tissus,
voilà,
ouais.
Puis les gens vont garder leurs vêtements. Et moi, je vais leur mettre mes vêtements. Enfin, mes vêtements, je dis mes vêtements, en plus, ce ne sont pas les miens, puisque ce n'est pas moi qui les ai fabriqués, ces vêtements, en plus de leurs vêtements, parce que étant donné que, voilà, d'un point de vue hygiène, il faut que les gens gardent leurs vêtements, ils ne vont pas mettre ces vêtements sur leur peau directement. Donc, il valait mieux qu'il y ait de la climatisation, surtout pour les séances de juillet-août.
Alors moi, en ce qui me concerne, je viendrai à ce moment-là. J'éviterai peut-être, parce qu'il y aura aussi les journées européennes du patrimoine,
oui.
Samedi 20 et dimanche 21.
Oui, il y aura deux sessions, oui, oui, oui.
Donc, à 11h également. Donc, moi, j'éviterai, parce que là, il va y avoir beaucoup de monde.
Alors là, on a monté la jauge à 30-35 personnes, mais ce qui veut dire que ça va être beaucoup plus chaotique et pour la visite au cœur de l'expo et au niveau de l'atelier.
Et alors, aux vacances de Noël,
oui.
Ça c'est une bonne idée
oui,
aussi.
Oui, pour les familles qui restent
sur nous. On peut venir en famille, oui. Oui.
Oui, alors c'est à partir de 11 ans et j'explique pourquoi. Alors déjà, pour la manipulation des vêtements qui sont quand même fragiles, même s'ils ne sont pas antiques, ils commencent à être vieux, comme moi. Et ensuite, il faut vraiment que ce soit des enfants qui soient quand même intéressés par le sujet, parce que je vais quand même utiliser des termes techniques, même si j'explique. Voilà, c'est pas pour des tout-petits. C'est
d'accord.
Quand même pour des enfants qui commencent à s'intéresser à certaines choses, qui commencent à s'intéresser un peu à l'Antiquité.
Des collégiens, quoi.
Voilà, des collégiens,
des
lycéens. Et puis, voilà, des adultes aussi qui sont un petit peu passionnés, enfin, qui ont un petit peu d'appétence pour le sujet, quand même.
Alors, justement, puisqu'on parle de collégiens, de lycéens, je pense à mes collègues. Est-ce que c'est envisageable que des professeurs réservent une visite ?
Alors, c'est pas marqué sur le programme, parce que c'est un peu en off. On a quelques sessions... en dehors de ces dates, pour des groupes.
D'accord.
Mais il n'y en a pas beaucoup, on en a 4 ou 5, je crois. Donc là, il faut téléphoner pareil à la réservation du Musée de la Romanité pour des groupes. Mais là aussi, des groupes un peu restreints, comme vous pouvez le comprendre,
ah oui.
Par rapport au côté pratico-pratique. Et là, c'est pareil, des groupes qui sont quand même intéressés. Alors, on axe plutôt sur des écoles un peu qui travaillent sur la mode, le textile, ou aussi j'avais proposé à des écoles qui travaillent sur le numérique, sur l'image du numérique,
ah oui.
Puisque nous avons beaucoup de gens qui travaillent, des prestataires qui viennent pour nos numériques et qui ont beaucoup de difficultés à appréhender ce vêtement antique. Et justement, dans ces écoles-là, ils auraient bien besoin de ces formations-là. D'approcher ces vêtements qui sont très différents de ceux qu'on a l'habitude en Occident.
Oui, donc peut-être que des sections de création
design
au lycée Camargue ou à
Saint-Vincent-de-Paul, oui, voilà.
Seraient bien inspirés de se mettre
exactement,
en contact.
Exactement, les écoles d'animation, d'images numériques, sur le textile, la mode, etc.
Ouais. Ah oui, c'est une très bonne
là,
idée.
Là, on a 4-5 créneaux, groupe, réservation groupe. Là, il faut bien préciser qu'on veut
voilà.
Une réservation groupe et préciser le nombre de personnes, etc.
Alors là, ces réservations, j'imagine que pour les établissements, ne pourraient... Alors, sauf pour peut-être Saint-Vincent-de-Paul ou Création Design, parce que ça peut s'intégrer à un projet de l'année.
Oui.
Mais autrement, ça sera en septembre, parce qu'il faut...
Alors, ça sera même octobre, puisque moi, je prendrai mes congés juste après les journées du patrimoine, donc je reviendrai que début octobre. Donc, ça sera plutôt pour octobre.
D'accord. De toute façon, c'est très bien.
De toute façon, le temps de connaître les élèves et de faire la programmation en début d'année scolaire, oui.
Alors, cet atelier dure 1h30 approximativement.
Alors, 1h30, sachant que pour ceux qui ne sont pas trop pressés, éventuellement, on peut déborder un petit peu parce
oui.
Que je vais amener un certain nombre de vêtements. Certains seront juste mis sur cintre parce qu'on n'aura pas le temps de tout essayer.
Oui.
Donc, il y aura certainement des questions. Ça attire toujours beaucoup de questions, hein, le vêtement, le textile. Donc, c'est à peu près sûr que ça va déborder, mais bon, normalement, c'est 1h30.
Très bien. Alors, donc, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet en expliquant combien, alors c'est non seulement beau des vêtements, mais combien c'est important pour connaître une civilisation.
Tout à fait. Oui, le vêtement, c'est vraiment un signe de, qui caractérise une population. Les peuples de l'Antiquité ne font pas exception. Hein. Et, par contre, pour nous, c'est difficile d'identifier ces vêtements, de les discerner les uns des autres. Parce que, alors déjà, les images ne sont pas toujours très détaillées.
Oui, parce qu'il faut bien se dire que ces vêtements, ils ont disparu.
Complètement. Il nous reste quand même en vestiges archéologiques. Oui. On a quelques vêtements, mais déjà, ils ne sont pas toujours en très bon état.
Et où sont-ils, ceux qui restent alors de vêtements?
Alors, en France, on en a. On en a au musée de Dijon. C'est un vêtement qui vient de la nécropole de Fin-Renard. Alors par contre, ce que je ne sais pas, c'est si elle est exposée ou pas, parce que vous savez, les textiles sont très peu exposés en musée, puisqu'ils
tellement
sont trop fragiles.
Périssables, oui.
Voilà, mais peut-être que des chercheurs peuvent y avoir accès. Et vous avez au musée Bargoin, vous avez également, alors là, au musée Bargoin, c'est pour le sujet idéal, ils ont retrouvé une tunique complète, en très bon état, avec sa ceinture.
Mais ils l'ont retrouvée, elle n'était pas
dans
à l'air.
Dans une nécropole. Une tombe, oui. Et dans cette nécropole, d'ailleurs, ils ont trouvé des chaussures aussi. Et ils ont trouvé des cheveux également. Il y a une tresse de cheveux qui est... Alors elle est exposée, la tresse de cheveux. Et ils ont trouvé aussi des chausses en laine.
On a pris l'ADN de ces cheveux.
Ah, mais je ne sais pas si ça a été fait. Et ils ont trouvé des chausses en laine également, qui sont elles aussi exposées,
oui,
alors que la tunique, elle n'est pas exposée, elle est trop fragile. Il y a des chaussures qui sont exposées au musée Bargoin, là, de Clermont-Ferrand.
Ah oui, alors donc à part ces exceptions, il faut se fier aux images, aux stèles,
exactement, voilà. Aux peintures aussi, aux mosaïques, puisqu'on a des personnages avec leurs vêtements, mais il faut pouvoir les interpréter, c'est ça le problème. Et puis vous avez évidemment des textes, hein, les sources antiques qui nous donnent des noms, parfois des techniques de fabrication.
Mais parfois les noms sous-traitent parce qu'ils désignent plusieurs réalités,
le problème, pour nous c'est pas clair.
Oui.
Pour nous, ce n'est pas clair. Et puis, il faut voir que ces vêtements évoluent dans le temps, dans leur forme, dans leur dénomination aussi. Donc, pour nous, c'est très complexe. Donc, je dis toujours, moi, dans ma visite, quand je écris sur des vêtements, je mets des points d'interrogation et je mets des guillemets. Et je dis aux gens, ce sont des hypothèses de chercheurs, parce qu'en fait, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et donc, je ne sais plus d'où je partais. J'ai perdu le fil.
Nos sources, oui, c'est ça. Nos sources, donc, c'est les textes, c'est les images.
Voilà, oui.
Et très peu de vêtements
en vrai, comme disent les enfants. Exactement.
Donc,
en fait, il y a des chercheurs qui ont étudié tout ça et qui essayent de mettre les images et les noms et les techniques ensemble, en vis-à-vis. Pour essayer de comprendre comment tout cela fonctionne. Et donc, il y a des populations comme la population celtique. On a quelques rares images, et souvent assez tardives. On est vraiment dans la fin de cette époque pré-romaine. Et en plus, quand les Celtes sont, et notamment les Gaulois, sont conquis par Rome, leurs vêtements se transforment, ce qui est normal.
Forcément.
Ils devaient certainement s'être transformés entre la période archaïque et les périodes plus récentes, de toute façon. Et sous l'influence des peuples alentours, les vêtements changent. Notamment, par exemple, on parle des brés pour les Gaulois,
oui.
Hein, on pense toujours
dans
à Astérix.
La caricature.
Voilà. Mais en fait, les brés, c'est pas du tout ni celtique ni germain. En fait, ce sont des peuples de l'Europe centrale et des peuples de l'Orient qui portaient ces pantalons. Et c'est au contact des Celtes avec ces populations, quand les Celtes sont partis s'installer dans ces régions-là, les Gaulois les ont adoptés et les ont ramenés quand ils sont revenus dans leur territoire d'origine. Et les Germains ont copié ce mode vestimentaire. Mais en fait, les vêtements voyagent énormément, comme
exactement.
Les idées.
Et bien c'est pourquoi l'émission s'appelle « Gaulois mais Romains, tissage et métissage » avec Cécile Carrier. Parce qu'effectivement, on est en plein dans ce sujet et dans le fait qu'un vêtement est un code de l'âge,
du sexe aussi,
oui, voilà.
Des fonctions. Ça aussi, c'est indiqué justement dans ce parcours vêtements. C'est bien indiqué justement, c'est pour ça qu'il y a 20 objets qui ont été choisis, parce qu'ils sont tous, on a l'impression qu'ils sont tous un peu habillés pareil. Oui, mais non. Parce que si on analyse de plus près, on se rend compte qu'il y a des marqueurs ethniques et des marqueurs sociaux.
Mais on va marquer une petite pause musicale avec une mélodie celtique, justement. Et puis, on retrouve avec grand plaisir Cécile Carrier dans une minute ou deux.
À tout de suite.
À tout de suite. Antiquissimo, bien entendu, sur Radio Alliance Plus. Gaulois mais romains, tissage et métissage avec Cécile Carrier, que nous avons le grand bonheur de retrouver et qui a commencé de nous expliquer, de nous dérouler le fil. Et ce fil conducteur, on va le suivre maintenant plus précisément en s'accrochant bien à ce fil pour voir avec elle quelques œuvres justement qui pourraient nous aider à avoir un œil plus averti maintenant.
Alors, en fait, on pourrait découper, entre guillemets, ce parcours en plusieurs petites sous-thématiques, je dirais. Alors, la première partie qui est dans la salle, la première salle, vous avez toute la partie sur les citoyens et citoyennes, donc les vêtements, dont on a déjà parlé au cours d'émissions spécifiques sur le vêtement. Donc, pour le citoyen, sa fameuse toge, hein, qui est un marqueur vraiment du citoyen romain. Donc
en représentation.
Et pour la femme, on avait parlé de la fameuse stola et de son manteau, la pala. Et la surprise, c'est que nous n'en avons pas dans le parcours, car la seule image de citoyenne que nous avons dans l'exposition, c'est celle de Julia Paolina, qui est une image tardive.
Oui.
Et donc la stola n'est déjà plus portée. Il ne reste plus que le chitone, c'est-à-dire la tenue grecque que les Romaines avaient adoptée pour mettre souvent sous leur stola. Donc, Julia Paolina, elle porte son chitone avec un manteau qui est probablement animation puisque ça va avec. Je ne pense pas qu'elle porte une pala avec une pala romaine avec un chitone grec. Mais ça, je ne peux pas vous le dire parce que, autre point intéressant, c'est que sur les images, n'ayant pas les dimensions des tissus, ce qui différencie une pala d'animation, c'est la hauteur.
Oui.
Et je ne l'ai pas puisque le tissu, il est drapé autour de la personne. Donc voilà, ça c'est un autre point.
Alors elle, on la voit à l'entrée de l'exposition.
À l'entrée, ils sont côte à côte tous les deux. Donc Julia Paolina et le magistrat assis qui porte sa toge. Donc ça c'est un premier point que les personnes peuvent repérer. Le deuxième point, c'est quand on part vers la deuxième salle où il y a trois stèles en pierre, donc avec les effigies des défunts. Et ce sont des Gallo-Romains avec un vêtement d'époque. C'est-à-dire des vêtements caractéristiques qui sont issus des vêtements des Gaulois d'avant-conquête, notamment la fameuse tunique gallo-romaine que l'on appelle, qui est tout simplement la tunique gauloise qui est portée plus longue, parce que la mode a changé, on ne porte plus les braies ou très peu, et on imite les tuniques plus longues des Grecs et des Romains. Voilà. Donc là, on le voit dans cette partie-là de l'exposition, et donc dans le parcours, on explique justement cette tunique, en quoi elle est différente de la tunique romaine, notamment au niveau des manches, au niveau de la longueur aussi qui est plus courte, et le tissu aussi qui est plus épais, notamment dans ces stèles. Ces stèles viennent de régions plus nordiques, et donc les tissus sont plus épais parce qu'on a besoin d'avoir chaud.
Bien sûr.
Et d'ailleurs, les Gaulois, les Celtes, portaient des vêtements très épais, des manteaux très couvrants, très épais pour ça.
Et oui, parce que bien sûr, à Rome, c'est le lin qui prédomine.
Oui, voilà.
Et on imagine que ce tissu, on ne va pas le retrouver dans les Gaules.
On peut avoir du lin, hein, même en Gaule, puisque bon, le lin se cultive aussi en Gaule, mais on a aussi beaucoup de laine. Des manteaux très épais, des tuniques très épaisses, ça se voit dans les plis hein, de sculptés, d'ailleurs. Et je pense que les gens verront tout à fait la différence.
Oui, et alors dans les textes romains, il y a beaucoup de choses autour de la laine et l'origine de cette laine. Et le poète Martial, par exemple, aime à signaler qu'on va souvent dans son pays, dans sa patrie, chercher de la laine noire.
Hein. Oui.
Alors à propos justement des couleurs, là, on ne peut pas s'en rendre compte.
Alors la toge, on sait qu'elle est sa tunique, on sait qu'elle est de couleur naturelle.
Oui. Hein,
sauf pour les magistrats, enfin certaines personnes qui ont certaines fonctions et certains statuts. Et là, on va avoir du pourpre qui va être utilisé pour marquer. Donc là,
on a des bandes
de pourpre sur la tunique et sur le bord de la toge qui signalent voilà un certain. On avait déjà discuté et je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon on va y passer des heures. On a des marqueurs sociaux. Pour la stola de la femme, par exemple, ces bretelles, elles sont rouges, pareil, c'est un signal. Pour les Gaulois, que ce soit avant ou après conquête, on sait qu'il y a de la couleur, puisqu'ils adorent la couleur, ils adorent les ornements, les franges, les pompons, les rayures, les carreaux.
Et on va quitter l'Unie romain peut-être pour quelque chose de plus de plus géométrique ?
Alors là, oui, les Gaulois, ils adorent ça. Hein. On a des losanges, on a des carreaux, on a des stries, on a beaucoup de stries. Et d'ailleurs, on a trouvé beaucoup de tuniques d'époque, donc après conquête, des tuniques donc gauloises. Parce que bon, même s'ils sont romanisés, ils sont quand même gaulois. Et leurs tuniques ont beaucoup de rayures, qui imitent d'ailleurs les bandes de la tunique romaine. C'est rigolo d'ailleurs. Qui peuvent être rouges, vertes, mais il y a prédominance de rouge quand même. Donc on voit quand même qu'il
y a quand même
une petite imitation.
Voilà. Bah, il fallait faire évoluer romain. Voilà. Voilà.
Mais il y a beaucoup de franges, beaucoup de pompons dans les tuniques notamment. Mais oui, ils ont, les Gaulois aiment la couleur, hein, l'ornementation.
Et alors, est-ce qu'on a des ceintures
Alors, on peut porter la tunique ceinturée si on veut. Ça peut être des tuniques très longues d'ailleurs, qu'on ceinture deux fois, trois fois.
Pour la faire blouser un petit peu.
Oui, un petit peu. Mais pas tant que ça en fait, hein, quand on voit les images. On blouse beaucoup moins que chez les Grecs et les Romains.
Donc, ce serait un vêtement plus ajusté finalement.
Oui, mais comme il est très épais, du coup, il est moins ajusté parce qu'il est plus épais. Voilà, donc ça ne donne pas la même silhouette.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait signaler d'autre comme,
Des phénomènes d'acculturation, justement, comme voilà, la tunique gauloise qui change. On peut voir aussi, dans la troisième partie, des phénomènes d'acculturation avec des divinités gauloises qui sont habillées à la grecque. Des divinités gréco-romaines, on va dire, comme Mercure, par exemple. On a le Mercure à la serpe qui porte une tunique et un manteau gaulois. Par contre, il porte
Dire qu'il a une capuche ou pas ?
Alors là, il n'a pas de capuche parce que comme il porte le pétase, c'est-à-dire le chapeau. De Mercure Hermès, et du coup, il n'a pas le capuchon. Mais il porte une tenue à la gauloise. Donc voilà, on a des phénomènes d'acculturation qui sont visibles et qui sont notés dans ce parcours, qui est vraiment intéressant pour ça.
Alors vous dites que vous avez ciblé 20 œuvres,
oui,
c'est ça?
Oui.
Et comment les avez-vous choisies, ces 20 œuvres?
Alors, en fonction des vêtements qu'ils portaient, justement, qu'elles soient symboliques, qu'elles portent un discours intéressant pour que les gens puissent voir justement ces différents types de vêtements d'un point de vue ethnique, mais aussi comment justement ces vêtements s'influencent les uns des autres, ces marqueurs d'acculturation justement. Et également, là on n'a pas le temps d'en parler, mais je voulais aussi introduire le nu, parce que le nu a quand même une signification dans les cultures gréco-romaines qui est intéressante, sachant qu'en Gaule, le nu est très peu, n'existe pas pour ainsi dire. Et quand on voit le dieu de bourré qui est nu, on voit bien qu'il y a un phénomène d'acculturation. Là, on a une imitation des dieux et des héros gréco-romains. Mais aussi en fonction de la
Parce que dans le monde gréco-romain, la nudité est l'apanage des dieux.
Et des dieux et des héros, voilà. Oui. Et des empereurs héroïsés, divinisés. Et autre point important de choix, c'était la lisibilité pour le public. Parce que, par exemple, j'ai quand même fait un cartel dessus, mais il y a une bague avec une entaille où on voit Jupiter avec son imation. J'ai quand même fait un cartel dessus, mais je comprends bien que les gens, ils vont rien voir. Parce que j'ai quand même fait un cartel pour introduire l'imation, qui est le manteau traditionnel grec. Mais c'est vrai qu'après, j'ai essayé de choisir des objets un peu plus grands, des figurines un peu grandes, dont le vêtement est clairement lisible. Par exemple, les figurines en terre cuite étaient illisibles au niveau du vêtement. Je les ai pratiquement toutes éliminées, à part deux, parce que qu'est-ce que le public va voir ? Il ne va rien voir, donc c'est dommage.
Et dans les œuvres en métal, est-ce qu'il y avait,
quelque chose
à dire ? Il n'y avait pas,
non. Enfin, en métal, si, il y avait les figurines en bronze.
Oui.
Mais par exemple, dans les pièces d'argenterie, il n'y avait pas. Donc, elles sont éliminées de mon parcours automatiquement.
D'accord. Donc, 20, c'est à la fois peu
et beaucoup. Parce que, mine de rien, il y a quand même du texte à lire, quand même. Donc, sans vouloir être trop lourd, il y a quand même un certain nombre de mots qu'il faut définir. Donc, c'était un peu complexe. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'a pas mis de cartel au mur pour ne pas alourdir le parcours.
Oui, bien sûr. Mais d'où l'importance de ce panneau au début.
Au début,
il faut vraiment ne pas louper si on veut avoir le bon fil.
Vous inquiétez pas, si vous n'arrivez pas à le visualiser, les personnes qui sont là dans les salles sont tout à fait briefées, elles connaissent bien ce parcours, donc elles pourront vous aider, elles vous trouveront les fiches de salle si vous n'arrivez pas à les trouver.
Est-ce qu'on peut envisager une publication suite à ce parcours ?
Ce n'est pas envisagé pour l'instant, non, c'est juste les visites. Bah, disons que ce n'était pas prévu d'être trop non plus mis en valeur non plus, donc c'est juste un parcours parallèle à l'exposition. C'est l'exposition qui prime quand même, hein, sur ce parcours.
Mais il faut faire les deux.
Voilà.
Voilà. Mais merci beaucoup, Cécile.
Merci
et
à
au
vous.
Plaisir de vous retrouver.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.